nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Raymond Boudon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Focus. Rappelons-le, vous êtes un éminent sociologue à la vision libérale, mais au sens social du terme. Vous pensez que l'être humain, de par son action volontaire, joue un rôle irremplaçable dans la construction de systèmes sociaux. Et vous vous heurtez à la vision socialiste du monde. Vous entrez à l'Académie des sciences morales et politiques en 1990 dans la section philosophie, avant de basculer dans la section sociologie en 1999. Alors, rappelons-le en quelques mots, le principe de notre émission est simple, nous faire partager quatre moments clés de votre vie. Hier, nous avons évoqué votre année à l'Université de Columbia, à New York, c'était en 1963. Aujourd'hui, nous avançons dans le temps pour arriver à 1968. À cette époque, vous venez de soutenir votre thèse et vous devenez professeur à la Sorbonne, je crois.
Oui. Exactement.
Et vous êtes confronté de plein fouet par ce que vous appelez la dégradation du système éducatif.
Effectivement, j'ai été nommé à la Sorbonne en 67. J'ai pris mes fonctions au début de l'année universitaire, 67-68. Et comme il était d'usage dans l'université traditionnelle de donner aux jeunes professeurs les enseignements les plus lourds, Raymond Aron, qui était président ou chef de la section de sociologie, m'avait dit « Vous faites le cours de première année à Sancier ». Bon, alors, il y avait le grand amphithéâtre de Sancier qui contient je ne sais combien de centaines de places, qui était plein craqué, et puis le cours était retransmis dans des amphithéâtres extérieurs, tout ça était très impressionnant, on avait un micro-cravate, j'avais l'impression de ne pas pouvoir bouger un muscle
du cou. C'était une grande première pour vous ?
Ben, c'était une grande première, oui, je venais de Bordeaux, c'est tout de même, c'était un climat extrêmement différent, un nombre d'étudiants aussi, d'ailleurs très attentifs. En 67, quand j'ai commencé mon cours, j'ai pu faire mon cours complètement. C'était un cours semestriel. J'ai pu le faire complètement. On n'entendait pas une mouche voler. Ça marchait très bien.
Enfin, vous aviez quel âge à l'époque ?
Ben, j'avais 34 ans à l'époque. Et je veux dire que c'était vraiment l'épreuve du feu. C'était tout de même pas facile parce qu'on sentait très bien qu'un simple mot à côté, un simple bégaiement, une hésitation sur un mot, un lapsus, et alors c'était l'hilarité qui se répandait à travers des centaines de gorges. Alors, on voyait très bien la menace, donc on était obligé de se tenir.
Donc vous restiez très attentif à vos propos.
Très attentif à chaque mot, ne surtout pas déraper, fallait pas que ça soit trop difficile non plus. Enfin, donc, bon, ça a marché.
Et alors, mais ça a pas marché longtemps. Vous sentiez déjà le climat comme ça à l'université qui commençait à monter ?
Pas du tout. Pas du tout, de façon très curieuse. Non, vraiment pas. Alors, il y a peut-être le fait que j'étais tellement obsédé par la difficulté de mon travail que je voyais pas grand-chose de ce qui se passait dans le public. Ça, c'est possible aussi. Et puis, il y avait dans l'université traditionnelle française de cette époque-là très peu de relations entre professeurs et étudiants. C'était dû en grande partie au fait que la masse des étudiants était telle que en première année, on voit pas très bien comment on pouvait avoir des contacts personnels.
C'était combien d'étudiants ? 400 ?
Oh, plus que ça. Enfin, 400 dans l'amphithéâtre principal, je suppose, plus ceux qui écoutaient dans les amphithéâtres à côté. Je ne sais pas, c'était plutôt proche de l'ordre du millier, en réalité. Donc, peu de contacts personnels, pas du tout même, avec les étudiants.
Dans vos travaux de recherche, le problème de l'éducation a occupé une place importante dans vos recherches.
Oui, d'abord parce que je crois que intrinsèquement pour une nation, l'éducation c'est quelque chose de fondamental. Et ça, je l'avais appris aux États-Unis. J'avais été tout de même frappé par la qualité extraordinaire des universités américaines, par leur richesse, bien entendu, qui est sans comparaison avec celle de nos pauvres universités européennes, comme disait mon maître Stoetzel de façon systématique. Bon, donc j'avais bien compris, j'avais vu aussi que dans les Michelin américains, les guides pour les touristes, le AAA, eh bien, il y avait toujours, à chaque fois qu'il y avait une université dans une ville, elle occupait, dans les endroits à visiter, un rôle essentiel. C'est pas du tout le cas ici, n'est-ce pas? Quand vous regardez le guide de Bordeaux, on ne vous dit pas d'aller voir l'université Victor Ségalen, on vous dit d'aller voir d'autres choses.
Enfin, vous étiez nostalgique, plus ou moins, de l'enseignement dans les universités américaines?
Bah, j'ai toujours trouvé que ça aurait été très bien si les universités européennes essayaient d'atteindre ce niveau-là. Enfin, nostalgique, le mot, non, parce qu'à cet âge-là, on regarde plutôt vers l'avenir que vers le passé. Mais, enfin, le profond désir, une profonde insatisfaction avec le fait que les universités françaises soient aussi pauvres, le mot peut-être avancé. Alors ça, oui.
Alors, à la fin des années 50, les études en matière de sociologie, de l'éducation se sont multipliées. Et puis, on s'intéresse à l'explosion des effectifs scolaires, à la relation entre origine sociale et niveau scolaire.
C'est ça. Alors, on ne s'intéresse qu'à ça. Et je dois dire que c'est peut-être... Alors, en dehors de ma motivation profonde, qui était vraiment une forte conviction que le système d'éducation, que la bonne organisation du système d'éducation est une donnée fondamentale dans une société, il y avait une motivation négative, disons. C'est-à-dire que je trouvais que c'était très bien que les sociologues s'occupent d'éducation, mais je trouvais qu'ils s'en occupaient de mauvaise manière. C'est-à-dire qu'ils soulignaient évidemment la relation entre l'origine sociale et le niveau d'instruction, et c'était très bien. Je veux dire que dans une démocratie, l'idée de l'égalité des chances est une idée fondamentale, c'est une idée profondément démocratique. Donc l'idée d'augmenter l'égalité des chances, l'idée d'expliquer le pourquoi de l'inégalité des chances existantes, tout ça est très bien. Ce que j'aimais pas du tout, c'est la manière dont cette explication était proposée. C'était une manière profondément néo-marxiste. C'est-à-dire que on nous expliquait qu'il y avait une classe dominante qui avait tout le pouvoir et qui s'arrangeait pour organiser les études de telle manière que les enfants des ouvriers ne puissent pas atteindre un niveau très élevé. Ce qui est scientifiquement tout à fait inacceptable. C'est simpliste. Et puis, ça oublie tout à fait l'existence des individus. Les individus
mais qui étaient très longuement partagés.
Qui étaient très longuement partagés. Les théories simples sont souvent, c'est Tocqueville qui dit ça quelque part, une théorie simple et fausse a beaucoup plus de chances d'être retenue qu'une théorie complexe mais vraie. Et je crois qu'il a profondément raison. Et c'est vraiment là, c'est cet historique de la sociologie de l'éducation des années 1968, de la fin des années 1960, tombe tout à fait sous cette accusation.
Alors, vos recherches sur l'éducation vous confirment que l'idée de l'individualisme méthodologique est importante. Qu'est-ce que c'est l'individualisme méthodologique?
L'individualisme méthodologique, c'est une idée, au fond, très très simple, qui est mise en œuvre par, je crois, par tous les grands sociologues du passé, aussi bien par Tocqueville que par Weber. Mais c'est l'idée qu'un phénomène social, quel qu'il soit, est l'effet du comportement des individus. Bon, première chose. Deuxièmement, du comportement, des croyances, des attitudes, des désirs, tout ce que vous voulez, des individus. Et deuxième chose, que ces croyances, ces attitudes, ces désirs sont compréhensibles. C'est-à-dire qu'on suppose que les gens ne sont pas idiots, qu'ils sont raisonnables, que quand ils croient quelque chose, ils ont des raisons de croire à ce quelque chose, etc. Vous voyez, c'est des idées vraiment, c'est des idées de bon sens. Et malheureusement, alors, il y a en sociologie une tendance très très forte, sous l'influence notamment du marxisme, mais pas seulement, qui veut que, au fond, ce qui se passe dans la tête des gens soit sans importance, qu'il faille regarder simplement les structures. Alors on postule très facilement l'idée que les individus sont le siège de forces sociales qui les dépassent, et à partir du moment où vous avez en tête cette métaphysique, vous n'avez naturellement plus besoin de vous soucier du sens que les individus donnent à leur action ou à leur croyance. Mais donc là, il y a vraiment...
Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'effet de groupe?
Des effets de groupe, ça c'est autre chose. Il y a tout de même des cas, si vous voulez. Si par exemple
que chacun est maître de ses destinées.
Oui, dans les limites de ses ressources. C'est-à-dire que si on me demande de me faire une opinion sur une question de physique, une discipline sur laquelle je suis complètement incompétent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un ami physicien puis lui demander ce qu'il faut penser sur un sujet. Et là, je vais le croire. Donc il va y avoir un effet d'interaction ou de groupe entre nous deux. Mais le fait que j'accepte sans réticence son opinion, Ça a un sens pour moi, vous voyez. L'individu spéciologique, ça ne veut pas dire du tout que les individus sont des atomes isolés. Non, non, ils sont dans des relations sociales, bien entendu. Ils ont des ressources qui sont limitées, notamment des ressources de connaissances. Hein. On a des idées précises et fondées que sur un tout petit nombre de choses. C'est Tocqueville qui disait aussi, là, nous croyons un million de choses sur la foi d'autrui. Bah, pas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tout simplement, enfin, donc, l'individualisme éthologique ne veut pas dire du tout, comme disent les philosophes, le solipsisme, l'isolement de l'individu, pas du tout. Mais ça veut dire simplement que l'individu, à la base de tout phénomène social, il y a des individus, et que les désirs, les attitudes, etc., des individus sont compréhensibles.
Alors elles justement, ont un sens. Si on applique cela à l'éducation, il y avait une corrélation qu'on connaît tous, hein, c'est la corrélation entre origine sociale et niveau scolaire. Et vous, vous posez la question de savoir si est-ce que c'est l'effet de l'héritage culturel ou d'une décision rationnelle. Alors, la plupart des personnes pensent que c'est un héritage culturel, et vous, vous dites non, c'est une décision rationnelle.
Effectivement, et je crois l'avoir démontré. En fait, c'est le livre sur l'inégalité des chances a été traduit, il a eu beaucoup de succès. Il a été beaucoup repoussé, mais il a eu beaucoup de succès en même temps. Et l'idée de base, c'est qu'il y a une sorte de calcul. Enfin, quand on engage sa vie, quand on décide de faire une année supplémentaire, quand on décide de faire un cycle supplémentaire dans le système scolaire, c'est une décision importante qui engage l'avenir. Alors, on sait très bien que pour une famille d'un niveau aisé, c'est plus facile que pour une famille d'un niveau moins aisé. D'autre part, la thèse que j'essayais de défendre et de démontrer, c'est que le calcul du risque est différent. C'est-à-dire que si vous venez d'un milieu peu favorisé, et si vous avez déjà atteint un niveau scolaire respectable, et si vous avez l'impression que ce niveau scolaire respectable va vous donner une position dans la société qui va être appréciée par votre entourage, et si d'autre part vous avez l'impression qu'il y a des risques à aller plus loin, que c'est difficile de passer 3 ans de plus sans se rendre sur le marché de l'emploi, eh bien, vous allez vous rendre sur le marché de l'emploi. Tandis que si vous prenez quelqu'un qui vient d'un milieu plus élevé, avec le même niveau scolaire, il se dira, oui, évidemment, c'est un niveau scolaire élevé, mais ma famille en attend plus. Enfin, par conséquent, même si je sais que je suis pas très bon, même s'il y a des risques, je vais quand même continuer. Vous voyez, c'est à partir de ces mécanismes psychologiques très simples que j'ai essayé d'expliquer les données statistiques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où ces décisions sont répétées, elles engendrent des effets que les mathématiciens appellent exponentiels, c'est-à-dire que les courbes de fréquentation du monde scolaire s'écartent de plus en plus au fur et à mesure que vous vous adressez à des cohortes d'âge plus élevé ou à des populations d'âge plus élevé. D'où le fait que, à l'arrivée, au moment où vous examinez les statistiques au niveau universitaire, eh bien, vous observez effectivement de très très fortes différences en fonction de l'origine sociale.
Alors, dernière question, en revenant sur la politique de l'éducation en France, dans votre livre, il y a encore une sociologie, vous dites que depuis les années 60, enfin depuis la fin des années 60, la politique sur l'éducation a été mal orientée et qu'il a fallu 30 ans pour prendre conscience des dégâts fâcheux qu'elles ont entraînés. Quel type de dégâts fâcheux ?
Eh bien, je crois que on a donné beaucoup dans la démagogie, c'est-à-dire que on a cru résoudre le problème de l'inégalité des chances en cassant le thermomètre, en baissant le niveau, en supprimant les récompenses positives et les sanctions négatives, en donnant dans une idéologie utopiste du Mozart assassiné en chaque personne, enfin qui n'a aucun sens, en donnant dans le pédagogisme, c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle la manière dont on enseigne est ce qui compte et pas du tout ce qu'on enseigne. Enfin, c'est plutôt l'inverse. On voit très bien, il suffit d'interroger les petits enfants qu'on peut avoir autour de soi. Ils aiment le savoir, ils aiment apprendre les choses. Il y a une espèce de curiosité spontanée sur le monde. Eh bien, finalement, l'école, en résultat de ces différentes mesures démagogiques qui se sont accumulées dans le temps, ce désir normal de curiosité n'est plus satisfait. On a fait de l'école un lieu de vie, comme on dit, un lieu de vie. Mais si l'école est simplement un lieu de vie, un endroit où on est censé passer le temps agréablement, alors les enfants vous disent qu'ils préfèrent rester chez eux et puis regarder la télévision ou bien taper sur Internet. C'est beaucoup plus intéressant. Donc la politique scolaire, pas seulement en France d'ailleurs, ça a été une tendance aux États-Unis aussi. Ça a été une tendance extrêmement générale à la démagogie, à une politique à court terme. Et maintenant, on voit au bout de 30 ans, c'est-à-dire sur le long terme, je citerai de nouveau Tocqueville, l'avenir juge éclairé et intègre. Donc il a toujours raison, il est clairvoyant, mais qui arrive, hélas, toujours trop tard. Effectivement, il faut attendre que les dégâts, c'est jamais la critique qui élimine les mauvaises idées, hein. C'est toujours les dégâts qu'elle cause. Enfin, vous voyez l'exemple de l'école, puis il y a eu les exemples politiques auxquels on peut penser, bien entendu.
Merci Raymond Boudon, on se quitte déjà, mais on se retrouve demain pour évoquer le relativisme dans les années 80. Merci et à demain.